Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
Chères auditrices et auditeurs de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui, dans Musique traditionnelle, nous retrouvons Josette Quintard qui nous parle depuis la région parisienne. Bonjour Josette.
Bonjour Mathilde.
Nous avons toujours ici le fidèle Armand Gall aux manettes.
Bonjour, chère Mathilde et chère Josette.
Et puis, nous allons commencer l'émission, comme d'habitude, avec une petite valse. Et c'est Josette qui donnera le nom juste après et qui vous en parlera.
Thank you.
Alors, l'arbre à la jambe torte, je vais le dire en français. Vous, Josette, vous le dites comment ?
L'arbre de la jambe torte.
Et voilà, voilà. Mais là, dites, j'avais dit que c'était une valse, mais il me semble quand même que,
oui,
que je me suis fait un peu avoir.
Il faudrait qu'il s'enchaîne. Ils ont enchaîné une bourrée après, juste derrière la valse, en fait.
On est d'accord. Alors, présentez-nous le groupe que vous avez choisi pour ce morceau.
Oui, alors c'est le groupe C'est Fleur de Zing, donc avec Michel Belin à la cabrette. Cabrette, est, bon là, il n'en joue pas sur ce morceau, mais il joue aussi le violon.
Oui.
Ludovic Rino à l'accordéon chromatique.
Oui.
Olivier Sulpice au banjo.
Oui.
Et Christian Mage, qui est de chez vous, qui est du Lot.
Oui, tout à fait, de Cardaillac.
Et, pour qui aussi chante. Et j'aime beaucoup, justement, j'ai choisi ce... un morceau où Christian Mage chante, parce que je trouve qu'il prononce vraiment bien le patois, je comprends vraiment tout ce qu'il dit, et c'est très rare de nos jours, parce que bien souvent dans les chansons maintenant, les chants, ils chantent en occitan, enfin, ils appellent, c'est l'occitan, c'est la langue occitane qui a été officialisée, mais je comprends pas tout.
Oui, mais c'est effectivement ça. Alors, j'ai eu la chance de jouer avec Christian Mage en 2010 dans le Lot. Ma grand-mère était là et elle m'a dit exactement la même chose. Il dit lui parle bien le patois.
Voilà.
Je le comprends. J'ai dit oula, si ma grand-mère a dit qu'il parlait bien le patois, alors on a une marque de fabrique. Alors si Josette Quintard recertifie par-dessus. C'est sûr, Christian Mage, si vous nous écoutez, eh bien, vous parlez bien le patois.
Bah, je lui ai dit, de toute façon, je lui ai dit, parce que je l'ai rencontré, je lui ai dit vraiment, et je l'avais dit à Michel Belin, parce que c'est un peu lui qui l'a introduit dans ce disque-là, dans le disque qui s'appelle Crème et déchets. Et il m'avait dit, tu verras, je pense que lui, vraiment, il parle bien le patois. Et effectivement, quand j'ai entendu, je disais, bon, il a...
Oui, exactement, oui. En tout cas, il le dit bien avec l'accent d'ici. Oui. Voilà, ça, c'est vrai. Alors, Christian ne fait pas partie du trio, mais effectivement, non. Il a été invité sur le CD. Et on est parti un peu vite, là, sur cette émission, mais je rappelle à mes auditrices et auditeurs que vous êtes donc... musicienne à vos temps perdus, vous faites de la cabrette, vous avez fait beaucoup beaucoup de danses folkloriques et traditionnelles d'Auvergne, vous êtes située en région parisienne, et moi je vous ai invité aussi parce que j'ai été impressionnée par votre mémoire. Je trouve que vous savez énormément de choses sur cette musique auvergnate, que vous connaissez les noms des morceaux, les noms des musiciens, qui les a joués. Alors comment vous faites pour retenir tout cela, parce que j'ai trouvé ça vraiment assez fascinant.
Comment je fais? Déjà, quand quelque chose nous passionne, on retient tout facilement.
Et ouais, pas forcément. Puis, moi, je ne les retiens pas tous.
C'est aussi des années aussi. Bon, ça va, je n'ai pas encore trop perdu la mémoire. Donc, pour l'instant, oui, je retiens bien. Oui, ça va. Mais comment je fais? Je ne sais pas. Je n'ai pas de technique particulière. Hein. Et puis, il y a aussi le fait maintenant que je me sois mise à la cabrette, ça me permet aussi de cultiver cette mémoire, parce que de jouer les morceaux, ça te permet d'entretenir la mémoire, hein, c'est sûr.
Oui, et alors vous faites de la cabrette depuis à peu près 10 ans, vous y êtes mis à la retraite. Donc j'encourage auditrices et auditeurs de se mettre à jouer d'un instrument quand ils en ont envie.
Il faut se lancer, et puis voilà. C'est pas toujours facile au départ, mais bon... avec de la persévérance et du travail, on y arrive quand même.
Et de l'amour et de l'envie.
Ah bah oui, si on n'aime pas, c'est pas la peine.
Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez choisi Fleur de Zinc ? Parce que je suppose que vous connaissez aussi des groupes et qui passeront plus tard un peu plus âgés, enfin dans le temps. Fleur de Zinc, c'est quand même un groupe assez neuf. Ils ont 10 ans. Ça fait 10 ans qu'ils sont là, en musique auvergnate. Bon, il y a des très très bons musiciens de temps, notamment l'incontournable Michel Esbelin à la cabrette. Mais qu'est-ce qui vous a fait choisir ce morceau à nous présenter ?
Alors celui-ci particulièrement, c'était bon. J'aime bien ce qu'ils font dans le groupe Flandesin. J'aime bien ce qu'ils font. Et ce morceau-là, j'avais choisi vraiment justement pour faire entendre le chant par Christian Mage, enfin le patois chanté par Christian Mage, parce que je trouve qu'il le prononce très bien. Oui. Et du coup, j'avais envie de faire, pour deux raisons, parce que j'aime bien Fleur de Zingue, et puis aussi pour faire entendre Christian Mage. Ouais. Il y a d'autres disques de Fleur de Zingue où il n'y est pas, et c'est pour ça que j'ai choisi celui-là particulièrement.
Et surtout, vous, je le rappelle, vous parlez très bien, enfin, vous parlez ce langage. Vous me disiez justement en antenne que vous aviez du mal à le parler parce que vous aviez peu de gens avec qui le communiquer.
De moins en moins, quoi. J'ai encore quelques amis de ma génération, mais très peu maintenant, parce qu'il y en a beaucoup même de ma génération qui ne le parlent pas, et qui le comprennent pour la plupart, mais qui ne le parlent pas. Et du coup, les anciens, plus anciens que moi, on va dire, parce que moi, je suis un peu une ancienne, mais les plus anciens, ils sont plus là, pour la plupart. Hein. Moi, j'ai encore mon père, mais mon père, il a jamais pris l'habitude de me parler, pas toi, donc même encore, il ne me parle pas. Quand il rencontre des anciens de sa génération là-bas, parce qu'il est reparti dans le Cantal, bien sûr, à la retraite, il parle patois avec tous. Ça, si on le trouve sur la place du marché, on l'entend parler que patois. Hein. Mais avec ses enfants, il parle toujours français.
Donc chez vous, comme chez beaucoup de gens, ça a sauté une génération, finalement. Ceux qui vous parlaient patois, c'était vos grands-parents, et vos parents, ils ont fait parce que la République française voulait, c'est-à-dire parler français pour pouvoir aller à l'école, et puis...
Déjà, mon père me raconte que lui, quand il était en Auvergne petit, tous les gamins parlaient entre eux, ils parlaient patois, puisque à la maison, tout le monde parlait comme ça. Et il se souvient très bien de s'être fait taper sur les doigts parce qu'il ne fallait pas parler de patois.
À l'école, oui. Et hors école aussi?
Hors école, non. Les parents ne l'interdisaient pas parce qu'ils le parlaient eux-mêmes, mais à l'école, oui. Il leur interdisait de parler patois, c'était interdit.
Ouais, donc avec vous, ils ne l'ont pas fait. Et vous avez eu la chance quand même que vos grands-parents, enfin de vivre avec vos grands-parents pour pouvoir l'attraper, ce langage. Ah oui, parce que comme vous le dites, alors expliquez-nous, voilà, vous me disiez qu'il y a certes des gens qui parlent occitan et il y a des universités d'occitan aujourd'hui, par exemple à Toulouse, mais que vous ne le compreniez pas.
Alors, je comprends en partie, mais je le comprends moins bien.
D'accord.
Je comprends moins bien, c'est la prononciation sans doute, mais après, déjà, ça, dans le même département, on ne parle pas de la même façon. Et si on prend l'exemple du Cantal, alors justement, c'est ça, le Cantal, il touche en fait les six autres départements du Massif central.
Oui.
On est juste au milieu.
Oui.
Et suivant le côté dans lequel on se trouve, du Cantal, par exemple, Christian Mage, pour en revenir à lui, il est du Lot.
Oui.
Eh bien, on se comprend très bien. Je comprends très bien quand on parle. Par contre, si je vais vers Saint-Flour, je comprends beaucoup moins bien. On ne parle pas de la même façon.
Ouais, moi j'ai entendu parler de l'Auvergnat. Mes grands-parents me disaient que quand ils arrivaient, qu'ils arrivaient à s'entendre avec les Auvergnats, mais que c'était pas facile. Enfin.
Ça dépend d'où ils étaient, en fait. Parce que moi, j'ai connu aussi quelqu'un qui était du Lot et avec qui on pouvait parler. Enfin, même mon père, il parlait souvent avec lui en patois. Il se comprenait très, très bien. Il parlait la même chose. Des toutes petites différences, mais vraiment minimes.
Mm-hmm.
Par contre, mon mari, il avait ses oncles étaient du côté de Saint-Flour, hein, d'Alleuze. Et bien, quand il parlait, je ne comprenais pas tout. Hein. Il fallait vraiment qu'il parle doucement. Il y avait des mots qui étaient complètement différents.
Mmh. Et c'est intéressant. Hein. C'était vraiment très, 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 très territorial, ces langues. Et ça bougeait
beaucoup. Quand on dit, par exemple, chez nous, on dit, je vous donne un exemple, hein. Un chien, c'est une co. Une co. Mmh. Et eux, ils disent une chi. Alors, ouais, il y a vraiment
oui.
aucune ressemblance, quoi. Donc, des fois, ils sont vraiment... Suivre la conversation, on finit par interpréter, parce qu'en entendant le reste de la conversation, il y a quand même des mots qu'on comprend. Mais il y a des mots, vraiment, je dis, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Oui.
Et avec l'occitan, mais c'est pas, je ne dis pas que c'est le patois de chez moi qui est le bon.
Non,
hein,
c'est une... Hein. C'était... c'est une... C'est une langue,
oui,
avec son accent,
elle
avec
ses particularités. Elle a été déformée, la langue d'oc, donc elle a été déformée suivant les régions. Et plus on remonte vers le nord du Massif central, plus c'est francisé.
Oui, effectivement, et oui, puisque ça se rapproche de...
Ben oui, de la langue d'oc.
D'accord. Alors, on va passer à la chanson suivante, qui est La bourrée de Saint-Chély. Voilà, et puis vous nous en direz plus sur ce morceau.
D'accord.
Présence à Figeac 97.7.
La bourrée de Saint-Chély. Alors là, je suppose que vous connaissez très bien l'accordéoniste, Josette.
Oui.
Vous l'avez rencontré
aussi, hein. Le cabretin aussi.
Ah oui, d'accord.
Alors, l'accordéoniste n'est autre que mon mari, donc Claude Quintard, et le cabretin est mon frère.
Ah.
Daniel Boudalanque. Voilà.
Ah, c'est votre frère, je savais.
Mon frère
pas.
Qui joue là avec Claude, avec mon mari.
Ouais. D'accord. Et ça s'appelle le duo cantalien.
C'est un disque qu'ils avaient fait ensemble, oui, qui s'appelle le duo cantalien.
Musique traditionnelle d'Auvergne. Et c'est sorti quand, ça?
C'est sorti en, attendez, je ne dis pas de bêtises, en 2015.
Ah, c'est très récent, en fait.
C'est pas très vieux, ouais, tout à fait.
Alors moi, je vous demanderai après, mais enfin, cette musique, ce son, ça me fait vraiment penser à ce que j'ai entendu petite dans les bals, dans les fêtes de village, à la radio, parce que mon grand-père adorait écouter ça. C'est vraiment un son qui est hyper spécifique. Alors, d'Auvergne, certainement un peu du Lot, un peu du Quercy, mais surtout de chez vous.
Oui, c'est juste duo cabrette accordéon sans autre instrument, et voilà quoi, tout simplement, hein. C'est surtout de la musique de bal, hein, qui faisait beaucoup. Bah, c'est-à-dire que là je ne veux pas trop raconter l'histoire de mon frère avec mon mari, parce que sinon ça risque d'être long. Hein. Et puis peut-être que quelqu'un d'autre se racontera à ma place.
Mais j'espère que Claude va venir
au
micro.
En fait,
hein.
Comment ?
J'ai dit, j'espère que Claude va venir au micro de Radio Présence bientôt.
Oui,
je l'attends.
Il parle mieux que moi, lui. Oui, tout à fait. Parce que, enfin, je pourrais très bien l'expliquer, mais c'est plus à lui d'en parler. Mais ils ont joué, juste pour quelques mots, ils ont joué très jeunes ensemble. Et ils étaient copains en étant adolescents. Et c'est comme ça que j'ai connu mon mari, d'ailleurs, parce que c'était un copain à mon frère. Voilà.
Ah, d'accord.
Voilà. Et donc, alors, la bourrée Saint-Chély, c'est en Lozère, hein. Bon, c'est un petit clin d'œil aux Lozériens en même temps. Hein,
alors, c'est pas Saint-Chély d'Apcher, hein, on est d'accord.
C'est Saint-Chély d'Apcher.
Si, c'est Saint-Chély d'Apcher, d'accord.
Oui.
Très bien, ok. C'est superbe, Saint-Chély d'Apcher, c'est sur un plateau là-haut.
Donc, là, je vous dis, je laisserai le soin à Claude de parler de ce duo, parce qu'ils ont fait beaucoup de choses ensemble depuis leur jeunesse. Beaucoup de balles surtout, ils ont fait beaucoup de balles. C'était juste pour leur faire un petit clin d'œil à mon frère aussi, hein, au passage, voilà.
Alors est-ce que c'était aussi ce frère qui dansait avec vous dans les groupes folkloriques?
Bah, il a commencé par danser, oui, lui aussi, il a commencé par danser quand il était petit. Hein. Et on n'a pas beaucoup de différence d'âge, en fait. On a à peine 15 mois.
Ah, oula, d'accord, oui.
Je suis l'aînée. Et donc, on a toujours été ensemble, on n'a jamais été séparés. Et on est rentré faire au groupe folklorique d'enfants ensemble. Après, on est rentré au groupe d'adultes ensemble. Et puis, voilà, c'est à l'âge de 14 ans qu'il a commencé à faire la cabrette, lui, à prendre la cabrette.
Voilà. Et c'est vrai que, alors, avec dans l'émission de Thierry Simonin sur la musette, vous vous rappelez, Armand ?
Oui.
De cette, voilà. Justement, on avait vu que la cabrette qui venait d'Auvergne a rencontré l'accordéon qui venait d'Italie.
D'Italie.
Et que ça a créé le musette, si je me rappelle bien. Hein. Et que ce son-là, en fait, du coup, ce son créé à Paris est redescendu en Auvergne, dans les bals et dans les fêtes.
La musette, parce que la cabrette, elle a aussi le nom de musette.
Oui.
Et donc, on disait le bal à la musette. Et après, ça c'est devenu les bals musettes. Mais en Auvergne, au départ, c'est vrai qu'il n'y avait pas l'accordéon. Il y avait plutôt la cabrette, elle y était. Oui, là-bas, la musette, la cabrette, elle était déjà en Auvergne, bien sûr. Mais c'était plutôt le violon. Bien tonique quand même, parce que, bon, ça, c'est pareil, Claude vous en parlera, mais lui, il avait un grand-père qui jouait du violon et du diatonique. Donc, c'est pas grave. Hein.
Oui.
Mais l'accordéon chromatique, il est venu après, oui, je pense, en Auvergne, il est venu plus tard. Oui. Mais c'est vrai que c'est un peu les Auvergnats de Paris qui ont peut-être amené un petit peu l'accordéon là-bas.
Mais je me dis ça, parce que, bon, petite, je croyais que l'accordéon venait de l'Auvergne. Et c'est plus tard que j'ai découvert que pas du tout, en fait. Et que ce mélange accordéon-cabrette, accordéon chromatique-cabrette, venait de Paris et qu'après, il a envahi les bals ici dans le Lot, je suppose aussi en Auvergne. Mais ici, petite, moi, je n'ai vu que... quand il y a une fête de village, on fait... Il y a forcément un bal musette avec accordéon-cabrette. Je suppose que nos auditeurs vont dire la même chose. Comment c'était chez vous, Armand ?
Oh, c'était à peu près pareil.
Il y avait aussi accordéon.
Oui.
Voilà, donc c'est marrant, finalement, c'est quelque chose qui a été ramené de Paris par les Auvergnats de Paris ?
Je pense, hein, j'ai pas fait franchement d'études là-dessus, mais les cabrettes, il y en a toujours eu en Auvergne, les accordéons, je pense que c'est venu beaucoup plus tard. Hein. Et je pense que c'est, vu que c'était un peu les Auvergnats de Paris qui se sont mis un peu à jouer de l'accordéon après les Italiens, puisque c'est d'abord les Italiens qui ont joué avec les cabrettes. Et ensuite, c'était une mode. Hein, je pense que la mode est descendue jusque là-bas. Quoi.
D'accord, oui.
Mais on ne connaît pas les plus anciens, je ne sais pas, les plus anciens... les plus anciens musiciens accordéonistes... d'Auvergne, je ne sais pas, ça c'est pas si vieux que ça, je pense. Hein. C'est pas si vieux que ça. Ça date peut-être des années. Bah, quand ça a commencé à Paris, moi je pense, hein, je suis pas. Là, c'est vrai que il y a peut-être d'autres personnes plus spécialisées que moi qui pourraient vous répondre là-dessus. Je pense pas que. Ouais, ça, les bals populaires, donc ça. Les bals populaires parisiens, c'était surtout dans les cafés auvergnats, quoi, au départ.
Et oui, parce que vous me parliez de, hors antenne, vous me parliez de la galoche d'Aurillac, qu'à Paris, vous avez quand même fréquenté les milieux auvergnats.
Oui.
Alors, je vous parlais de Bastille, mais vous, c'était où que vous alliez à Paris pour danser, pour parler auvergnat? C'était où?
Moi, déjà, j'allais à la galoche, oui. J'allais à la galoche pour écouter musique. C'était le rendez-vous des galoches d'Aurillac, rue de Lattes. C'était le rendez-vous de tous les musiciens auvergnats de Paris. Ils y allaient tous, là. Pas forcément tous le même jour, mais ils y passaient tous de temps en temps.
Donc, il y avait un lieu où on pouvait se retrouver entre auvergnats. Et c'est toujours le cas, hein, je pense.
C'était pour écouter, hein, surtout. C'était pour écouter et puis pour jouer, en ce qui concerne les musiciens. Ensuite, pour danser, moi, à mon époque... Hein, parce qu'avant, il y avait des bals un peu partout, des bals auvergnats, surtout dans le quartier de la Bastille. Mais moi, déjà, c'était un peu terminé tout ça quand j'étais jeune.
Ah,
donc, on avait encore des établissements dans Paris où il se faisait des banquets auvergnats, des amicales auvergnates qui faisaient leurs banquets, en fait, annuels. Alors, les amicales, c'est-à-dire que ce sont des originaires d'une commune d'Auvergne, ou de l'Aveyron, ou de la Lozère, hein, mm-hmm. Ces originaires qui étaient à Paris se réunissaient chaque année au cours d'un banquet pour se retrouver, pour parler bien souvent de d'affaires aussi, il faut bien le dire,
et
parce
oui.
que c'était souvent des cafetiers, restaurateurs et tout ça hein, dans ce milieu-là. Et au cours de ces banquets, quand le banquet était terminé, il y avait des balles.
Oui, ouais,
donc
oui.
Les gens du banquet restaient au bal s'ils le désiraient, mais aussi il y avait également des entrées de bal.
Oui, il y a des gens qui arrivaient.
Voilà, on pouvait aller danser sans être au banquet, si vous voulez.
Oui.
Et du coup, il y avait beaucoup à l'époque de... Même moi, j'ai connu beaucoup de garçons bougnats, qui venaient travailler sur Paris, des garçons de café aussi, qui n'avaient pas forcément les moyens de s'offrir le banquet, parce que c'était quand même pas donné financièrement. Mmh. Et donc, ils venaient pour le bal, voilà.
D'accord. Alors, très intéressant. C'est vraiment intéressant, cette partie historique de la musique auvergnate à Paris. Et je vous propose qu'on en reparle la prochaine fois, parce que notre émission se termine à nouveau. Mais nous aurons, je vous invite hein, pour la semaine suivante, pour venir reparler à nouveau de votre expérience auvergnate à Paris.
D'accord.
Eh bien, à bientôt, Josette.
À bientôt Mathilde, à bientôt Armand et à bientôt aux auditeurs.
À bientôt.
C'était Musique Traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaze.